CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ton vécu peut devenir une clé pour activer ta compassion ». Et oui, ce qu'on peut vivre dans notre quotidien, que ce soit notre passé ou les choses qu'on vit même actuellement, peut vraiment activer une compassion spéciale. Hein. On peut prendre un exemple tout bête rapidement pour nous mettre dans le contexte. Lorsqu'on a vécu soi-même un deuil, on a plus facilement de la compassion pour des personnes qui ont vécu un deuil. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et nous aurons en deuxième partie d'émission la rubrique « C'est mon histoire » avec l'évangéliste Yanis Gauthier qui est venu nous partager des expériences de la vie carcérale, mais du point de vue évangélisation, des beaux témoignages de ce qu'il vit en lien justement avec son propre vécu. Dieu lui a donné vraiment une compassion extraordinaire pour ces hommes, ces femmes, mais souvent des hommes hein, qui sont en prison et qui ont besoin de l'évangile plus que tout. Donc il nous en parle en deuxième partie d'émission. Donc avant toute chose, Nadine, on va commencer avec toi. T'es prête ?
Oui.
Merveilleux. Nadine, on commence avec la pensée du jour.
Notre passé est passé, et bien qu'il soit passé, il peut certainement servir à notre futur si on le regarde de la bonne manière. Parce que vous savez, des fois, quand on vit des choses, des fois douloureuses, on a des fois l'impression qu'on doit juste tourner la page et ne plus y penser. Mais j'ai vraiment la certitude que oui, dans votre vécu, il y a quelque chose de bon que Dieu peut tirer pour se glorifier. Et il y a une vérité à établir dès le départ, c'est que Dieu tient notre vie entre ses mains. Le psalmiste dit au psaume 139 au verset 16 que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et donc vraiment, ça c'est une vérité à établir. Mais dans ces jours, malheureusement, au fil des années, il y a des bons et il y a des moins bons. Et des fois, on veut oublier les moins bons, on ne veut plus y penser. Mais vraiment, je vous encourage, même s'il y a eu des moments douloureux, même s'il y a peut-être eu des séquelles, de laisser le Saint-Esprit revisiter ces dossiers parce que certainement, Dieu peut se glorifier au travers de ces choses. Votre vécu peut vraiment devenir une clé pour activer votre compassion et vraiment une gloire peut naître de vos cendres, je le crois absolument. Amen. Il y a un exemple qui me vient à cœur, c'est celui de la femme samaritaine. On connaît cette histoire dans Jean 4 et on voit que c'est une femme qui a vécu beaucoup de choses. En tout cas, elle a eu un vécu quand même pour une femme de son époque d'avoir 5 maris et l'homme actuel avec qui elle était n'était même pas son mari. Jésus lui dit dans Jean 4 verset 18. Mais dans son passé, sûrement qu'il y avait un cœur brisé, il y avait des déceptions, il y avait des échecs. Mais on voit que après sa rencontre avec Jésus, après que Jésus lui ait parlé, après que Jésus l'ait restauré, cette femme, la Bible dit au verset Jean 4, verset 28 à 29, « Alors la femme laissa, ayant laissé sa cruche, pardon, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait point le Christ. » On voit que cette femme-là, elle a été restaurée. Elle a été vraiment... sa vie a complètement changé à sa rencontre avec Dieu, mais elle s'est quand même servie de son... Elle n'a pas laissé son vécu l'arrêter. Elle n'a pas laissé les choses avant lui dire, « Non, tu ne peux plus aller retourner vers ces gens-là. » Au contraire, elle est allée vers ces personnes-là. Elle avait le désir de leur partager ce que Dieu avait fait dans son cœur. Mmh. Et vraiment, la restauration que vous vivez doit vous servir à aider les autres. Il y a des choses qu'on vit que seulement nous, qui nous donnent de la crédibilité. Une femme qui a eu 5 maris, qui a eu des échecs, elle a cette crédibilité pour parler à une autre femme qui passe par un divorce. Elle a cette crédibilité pour parler à une jeune fille parce que dans son vécu, Dieu lui a donné des pépites, Dieu lui a donné des leçons qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre. Donc, votre vécu doit vous donner la compassion parce que quand vous parlez d'un chemin par lequel vous êtes passé. Mais vous ne parlez pas à partir de vos expériences personnelles, mais parce que Dieu vous a restauré, parce que Dieu a vraiment mis un nouveau cœur, un nouveau regard sur ces choses-là, ça vous permet d'en parler d'une autre manière. Un autre exemple, je vais donner mon exemple personnel. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois que j'ai perdu mon père. Mais avant cela, la mort, le deuil, c'était pas vraiment un truc qui m'intéressait ou qui m'interpellait, bien que j'étais bien au courant que ça existe. Mais le fait de l'avoir vécu et d'avoir été guéri de cela m'a permis alors que d'avoir une compassion m'a permis de, quand j'entends quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, ça me touche profondément. Et ça, c'est vraiment important de vouloir vouloir regarder dans son passé pour trouver vraiment des clés pour aller de l'avant. Et juste pour terminer, j'aimerais juste vous dire, dans Luc 8, verset 38, on parle de Jésus qui rencontre ce fou de Gadara et lui dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et j'aimerais vous dire vraiment de regarder à votre passé, de regarder à ce que Dieu a fait dans votre vie et ne pas laisser ça juste rester derrière. Dieu peut se glorifier. Il dit dans le psaume 115, au verset 11, la Bible dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Et je vous invite, si vous pleurez sur votre passé, si vous pleurez sur votre vécu, si vous pensez que vos échecs vous font honte, de vraiment venir devant Dieu et dire, Seigneur, tu peux te glorifier. Donne-moi de regarder mon passé de la bonne manière pour que je puisse parler aux autres de ce que toi, tu peux faire.
Amen. Merci, Nadine. Oui, notre passé, on a tous eu un passé. On a tous vécu différentes choses dans notre vie. Il y a eu des moments plus faciles que d'autres. On est passé par des épreuves. Et quand on est sorti vainqueur d'une épreuve, d'un temps difficile, ou qu'on a réussi à se confier en Dieu, qu'on a réussi à découvrir des choses même nouvelles sur la présence de Dieu, sur la foi, sur toutes ces choses dont on a eu besoin pour nous sortir de certaines situations, non seulement on a des clés à partager aux autres, mais en plus on a une compassion. On a une compassion parce que quand quelqu'un vit quelque chose de similaire, on se souvient de ce qu'on ressentait. Mmh. On sait, oui...
Les cicatrices,
ouais, puis ça nous rappelle, on arrive à se souvenir de ce qu'on ressentait dans ces moments-là. On s'identifie, exactement. Et ça crée une compassion qui est difficile d'avoir si on n'est pas passé par là. Mmh. Et c'est une clé. Alors, dire que Dieu nous envoie des malheurs pour activer notre compassion, non. C'est pas ça qu'on dit. Non. Mais ce qu'on dit, c'est que ce passé, il est là. Qu'on le veuille ou non, il est là, ce passé, cette vie, des circonstances peut-être difficiles qu'on a eues, elles sont là. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Elles peuvent activer cette compassion extraordinaire qui va porter du fruit. Et on a un verset qui nous parle de Joseph, qui lui, justement, a vécu un temps très difficile, a vécu une période très difficile. Genèse 50 au verset 20, vous aviez projeté de me faire du mal, Joseph le dit à ses frères, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et je crois sincèrement qu'on a vécu des choses qui sont peut-être difficiles, mais que Dieu peut transformer ce mal en bien. Je pense peut-être à une femme qui a été violée, un fils qui a été violenté par son père, des expériences vraiment douloureuses. Dieu change le mal en bien. Pourquoi? Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce peuple nombreux, c'est d'autres femmes qui ont été violées, d'autres enfants qui ont été battus, d'autres personnes endeuillées ou autres qui ont vécu des choses similaires et qu'on va pouvoir approcher et à qui on va pouvoir communiquer une compassion spéciale, en fait.
Mais en fait, il y a toujours un piège hein, dans la vie chrétienne parce qu'on a les enseignements bibliques et si on n'a pas vécu certaines choses, on va peut-être donner des conseils qui sont plus moralisateurs qu'autre chose. Alors que quand on a vécu, pas forcément exactement la même chose, mais en tout cas quelque chose de similaire où on a souffert, on va être capable de se mettre à la place de la personne et puis de sortir justement de ces clichés, de cette moralisation. Mm-hmm. Et puis de dire...
Il faut que tu devrais
Il faut que, ça. Voilà, les faucons yaka, comme on dit. Oui. Hein, il faudrait faire. Et je me souviens d'un exemple, il y avait une femme comme ça que j'ai connue au tout début de ma conversion, qui était très très dure avec les gens qui passaient par des temps de dépression. Elle était très critique, comment ça, un chrétien déprimé, mais ça n'existe pas, quand on croit en Dieu, on est fort, et blablabla, 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 blablabla. Et peut-être 15 ans plus tard, j'ai retrouvé cette femme, elle venait de passer par un cancer, son mari avait fait faillite, ils avaient eu tout un tas de difficultés, et puis cette femme, elle est passée par un moment de dépression assez sévère. Et puis j'ai eu l'occasion d'en reparler avec elle, et elle m'a dit que, elle s'est rendue compte en fait que t'avais beau être chrétien, tu pouvais passer par des temps difficiles. Et là, elle a fait la grande découverte de sa vie et au lieu d'être moralisatrice avec les autres, elle est devenue pleine de compassion.
Et ça change tout, ça.
Et ça a tout changé.
Ça change vraiment tout.
Et je crois que que ce soit pour un cas de deuil ou même un cas de stérilité, dans toutes ces choses, en fait, c'est que ça nous éveille, en fait, à une réalité qu'on n'était pas conscient ou qu'on ne regardait, on ne voyait tout simplement pas. Et ça, c'est important, en fait, de laisser le Seigneur, justement, faire ce travail, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est pas que nous-mêmes on impose en fait notre lecture, mais c'est vraiment que au travers de ce qu'on peut vivre, qu'on puisse vraiment dire Seigneur glorifie-toi. Dans le psaume 115, ça dit non pas à nous Éternel, mais à ton nom donne gloire pour ta bonté, ta fidélité. C'est que dans toi tu es passé par là, tu sais que Dieu agit. Et quand Dieu reprend ce témoignage, ce vécu, c'est que c'est pour faire du bien à quelqu'un d'autre, c'est pour l'encourager. Et que je dis, c'est que quand la personne l'a vécu, c'est qu'elle ne parle pas à partir des théories, mais qu'elle parle à partir de la pratique. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui touche l'autre. Quand je sais que, par exemple, je sais pas moi, je fais 5 ans de stérilité dans mon mariage, et que tu me parles, et que si je sais que toi aussi t'as vécu ça, et que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ça m'encourage plus que quelqu'un qui a 8 enfants, qui est en train de me dire, et la foi, c'est pas le même, ça n'a pas le même rapport.
Ça n'a pas le même poids.
Et c'est vraiment, ça n'a pas le même poids. Et vraiment, nous-mêmes, nous devons ne pas avoir honte de notre vécu. n'ayant pas honte de notre vécu, ayant la certitude que Dieu est avec moi, et ça, ça va faire que, justement, je vais développer ce regard de compassion et non cacher, en fait, ce que j'ai vécu.
Mmh, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier qu'on peut être vraiment l'instrument de Dieu pour une situation particulière. Mmh. Certaines fois, comme tu le dis, Nadine, il y a des choses qu'on ne sait pas. On les a pas vécues, on est ignorant tout simplement. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est qu'on ne sait même pas. Si on n'a jamais eu un enfant hospitalisé, on n'a aucune idée des conditions de vie dans les hôpitaux. Mm-hmm. Et il y a des gens comme ça qui ont vécu des drames dans leur vie, un décès d'un proche ou autre, des choses difficiles, et qui, mais pas forcément même des chrétiens, hein, mm-hmm. qui ont décidé de créer des associations, mm-hmm. des structures pour venir en aide à des gens qui vivent des choses similaires, parce que tout à coup, les yeux s'ouvrent sur une réalité qu'on ignorait, et on se dit. Mais je peux pas rester sans rien faire, en fait. Mm-hmm. Et le but, c'est pas d'agir pour se guérir. Mm-hmm. Le but, c'est de guérir et ensuite d'agir. Mm-hmm. Et c'est là la nuance.
Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. L'objectif, c'est de pouvoir guérir les cœurs qui sont brisés. Mm-hmm. C'est de pouvoir apporter de l'aide. Parce que quand on est passé par une situation où on a nous-mêmes souffert, ça éveille de la compassion naturellement parce qu'ils sont passés par le parcours. Mais c'est insuffisant pour aider les autres. On va être là, on va les encourager. On ne va pas régler le problème. On ne va pas les aider à guérir le cœur brisé. Et c'est important de guérir soi-même pour pouvoir aller plus loin que le simple fait d'avoir de la compassion, mais de pouvoir aider les autres, leur montrer la voie qui nous a servi à nous pour sortir de là. Et je veux encourager. Moi, j'ai beaucoup souffert de rejet. Énormément depuis tout petit. Mm-hmm. Et quand j'ai rencontré mon épouse, on était fiancés, c'était terrible. Terrible, un vrai cauchemar, un vrai calvaire. Chaque remarque, chaque moment, chaque phrase, chaque critique qu'elle pouvait, remarque qu'elle pouvait me faire, c'était la fin du monde. Mm-hmm. Ça finissait en dispute et ça m'a fait prendre conscience que je devais guérir, sinon ça allait être là, pas possible de continuer. Mm-hmm. Et j'ai pris du temps avant de prendre suffisamment au sérieux ma situation. Et je veux encourager en fait ceux qui passent par des moments difficiles dans leurs émotions, qui sont blessés, qui ont le cœur brisé, de ne pas faire comme moi et dire « bon, de toute façon, c'est comme ça, je vais vivre avec ». Non, le Seigneur est capable de nous restaurer. Mmh. Et d'aller vraiment et de faire de ça la priorité de notre vie, parce que quand on sera restauré, non seulement on sera heureux, mais on pourra aider les autres.
C'est ça.
Et l'un des éléments clés dans ma délivrance, ma restauration, ma guérison, on va dire plutôt, de toutes ces blessures, ça a été vraiment que les autres, en fait. J'ai eu besoin des autres. Je n'ai pas simplement mené un combat seul dans la prière avec Dieu, mais je suis allé chercher de l'aide auprès de certaines personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé, qui m'ont porté. Et je veux encourager les personnes qui ont le cœur brisé, blessé, qui réagissent, qui ont du mal à faire de la guérison la priorité et d'aller chercher de l'aide. Si vous n'en sortez pas, allez voir le pasteur, allez voir le frère. Là où deux ou trois sont assemblés ensemble, il se passe quelque chose quand on demande au Seigneur Jésus. Mais n'essayez pas de régler votre problème tout seul. Alors, c'est un petit conseil, mais voilà. Mettez à la lumière les choses cachées et faites-vous aider.
Qu'est-ce qu'il y a encore plus, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est en fait de comprendre que Dieu, lui, est rempli de compassion pour nous.
Mm-hmm.
Et il l'a démontré au travers de Jésus.
Mm-hmm.
Et à tel point qu'il nous aimait chacun de nous, qu'il a envoyé Jésus mourir sur cette croix. Et quand les personnes qui écoutent cette émission, ils passent, moi je vous le dis, on ne peut même pas imaginer la quantité de gens qui suivent cette émission et ce qu'ils vivent en ce moment.
Mm-hmm.
Tu ne peux pas le compter.
Non.
Et puis chacun de nous, on a des défis aussi. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est de dire, mais Dieu a eu compassion de moi. Un jour, quand il a envoyé Jésus sur la terre, démontrer son cœur, mourir sur cette croix, afin que nous, on puisse être pardonnés, guéris, restaurés et apportés à notre position dans laquelle il voulait vraiment nous voir, fils et filles de Dieu. Et ça, moi, c'est la compassion de Dieu, il est là pour chacun de nous.
Oui.
Jésus, ça dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans jamais chuter en rien. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, il peut avoir compassion de nous. Mm-hmm. C'est parce qu'il a été tenté en toutes choses. Et il sait ce par quoi on traverse.
Oui.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Mm-hmm. Dieu, c'est le maximum de la compassion.
Amen.
C'est extraordinaire.
Amen. On va découvrir maintenant le témoignage de Yanis Gauthier dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Yanis Gauthier. Bonjour Yanis.
Bonjour Yveline.
Ça va bien aujourd'hui ?
Ça va très fort.
Yes. Je suis toujours très contente de te recevoir sur ce plateau, particulièrement dans la rubrique C'est mon histoire, parce que tu as de formidables histoires à raconter toujours. Tu es un peu une boîte à histoires, toi, en fait. Je pense qu'on pourrait faire 50 tournages avec toi. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de ton ministère, en fait, au niveau des prisons, dans le milieu carcéral, parce que tu portes beaucoup de fruits là-bas, tu te déplaces très très souvent pour voir des prisonniers dans plein de régions du monde, des prisons plus ou moins faciles, bien qu'une prison n'est jamais facile, mais tu es allé dans des prisons où les conditions de vie étaient vraiment très très difficiles, et tu viens nous raconter un peu cette histoire, mais pour rappeler ceux qui n'auraient pas connu ton passé, avant de venir au Seigneur, tu as toi-même fréquenté de très près le milieu carcéral, puisque tu as malheureusement été emprisonné plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et c'est là, d'ailleurs, entre ces quatre murs de la prison, que tu as connu le Seigneur au travers de ton épouse Manu, qui est venue te parler de Jésus-Christ au parloir. Et Yanis, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de retourner dans les prisons? Parce que tu es parti des prisons, tu as pu enfin quitter le milieu carcéral et tu y retournes. C'est un peu bizarre quand même. Pourquoi y retourner?
En général, quand on va en prison, on n'a pas envie d'y retourner.
Non, normalement pas. Hein.
C'est pas l'hôtel 4 étoiles. Hein. C'est vraiment pas un endroit agréable. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, beaucoup de détresse humaine. Les gens se tuent, s'entretuent, se suicident. C'est vraiment pas un endroit où j'avais envie de revenir.
J'imagine.
Et le fait de retourner en prison, en fait, n'était pas lié à ce que moi j'avais vécu. Ça a commencé à venir dans ma vie, à devenir vraiment probant, pressant même, le jour où j'ai enterré mon frère. Parce que quand j'ai porté le cercueil de mon frère, avec 30 ans, et quand je marchais sur le petit chemin de terre pour le mettre en terre, j'ai eu un flash sur sa vie. Et en fait, sa vie se résume au mot prison. Mon frère a connu plus de 19 fois la prison. 19, 17 fois, enfin, on les compte plus. Et j'ai vu les effets de la prison sur sa vie. Mon frère est devenu polytoxicomane. Beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Et à chaque fois qu'il sortait de prison, c'est comme si il perdait un peu de lui-même, perdait un peu de vie. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais
oui.
Il devenait de plus en plus l'ombre de lui-même. Mmh. Et quand j'ai enterré mon frère et je suis sorti du cimetière, il y a juste une vérité qui est descendue sur mon cœur. Je me suis dit, tu vois, Yanis, la seule différence, mais vraiment, entre ton frère et toi, se résume à un choix, une décision. Toi, tu étais dans ta cellule, en train de mourir, en train d'agoniser, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et Dieu est venu frapper à la porte de ton cœur et t'a demandé si tu voulais vivre. Et tu as saisi sa main. Résultat, aujourd'hui, tu es là. Et ton frère qui est mort quand même avec... une Bible dans la poche, sans avoir donné sa vie à Jésus. Lui, il est parti sans Dieu.
Aïe.
Et non pas que je sois le sauveur de l'humanité, mais j'ai vraiment senti Dieu m'appeler, m'interpeller, et me dire, Yanis, aujourd'hui, je veux t'utiliser pour aller apporter la lumière dans les prisons. Et je me suis laissé faire par Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, quand je vais en prison... On va pas dire j'ai été fait pour ça, j'ai été fabriqué par Dieu pour aller en prison, mais forcément il y a un écho dans les cœurs, j'ai une compassion pour les détenus que peut-être d'autres n'ont pas, parce que quand on parle de prison, pour les gens qui nous regardent, peut-être que c'est un univers totalement inconnu.
Mmh.
On peut être en prison, il peut y avoir une prison au milieu d'une ville, mais les gens qui habitent la ville ne savent pas ce qui se passe dans une prison.
C'est vrai.
Pourtant, il y a tellement de souffrances, tellement de choses. Quand je vais... aujourd'hui, dans mes actions d'évangélisation dans les prisons, et, je vois des jeunes qui 16 ans, il y a des cellules anti-suicide. Les jeunes se pendent avec leurs draps. Avec leurs draps, ils se donnent la mort. Et on ne peut pas rester insensible, impuissant, parce que, je me dis, la dernière fois, j'étais dans une prison, il y avait des jeunes dans leur cellule, accrochés aux barreaux, ils étaient des jeunes. Et moi, qui suis père aujourd'hui, je me suis dit, mais j'espère que les parents ne verront jamais leur enfant comme ça, parce que c'est destructeur. Et il se trouve que je me suis rendu dans une prison où mon frère a été régulièrement, il n'y a pas longtemps, et j'étais sur le parking. Et en fait, ça m'a rappelé que finalement, je regardais autour de moi les gens qui étaient, les parents, les familles qui étaient dans la voiture attendant l'heure du parloir. Et je me suis dit, ça n'a pas changé. Je pouvais ressentir la souffrance et la tristesse des familles à cause d'une incarcération. La tristesse des enfants qui parfois ont un papa qui est incarcéré. La tristesse d'une maman qui parfois a un enfant qui est incarcéré. Bref, c'est plus je vais en prison, plus finalement ça m'encourage aussi à y aller pour multiplier les actions. Mm-hmm. Parce qu'il se passe de belles choses. Oui, il y a la misère, oui, il y a la détresse. On va voir quelques photos, mais je vis vraiment des choses extraordinaires en prison.
Qu'est-ce que tu vis, par exemple? Qu'est-ce que tu as comme histoire?
Dernièrement, j'étais dans un pays africain au Congo et 3000 détenus s'étaient réunis dans la cour pour entendre le message de l'Évangile. Et à l'appel, c'est des milliers de détenus qui ont donné leur vie à Jésus. Et je me disais, je vois le royaume de Dieu, je vois la lumière de Dieu descendre dans ces ténèbres, ces gens qui étaient complètement démunis, laissés pour contre, lever la main vers Dieu, pleurer devant Dieu. Je me disais, Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. J'ai des détenus qui m'appellent quand ils sortent de prison. Si demain tu viens à la maison, je vais te montrer une pile de lettres que j'ai de détenus à travers du projet Un livre, un détenu, où on distribue le livre.
Oui.
Y a un impact extraordinaire. Les gens lisent le livre dans leur cellule, me disent, Yanis, merci d'avoir osé mettre ta vie sur papier.
Oui.
Je sais que je vais peut-être pas retrouver la liberté maintenant, mais en tout cas, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. J'ai des parents qui me contactent pour me dire merci, mon fils a reçu votre livre, il a changé, sa vie est transformée. J'anime des ateliers chez les mineurs où je les amène à écrire leurs témoignages, à mettre leur vie sur papier pour qu'ils puissent réaliser les mauvais choix qu'ils ont faits, mais aussi prendre les bonnes décisions. Mmh. Dernièrement encore, dans d'autres pays, on a pu distribuer mon livre à des milliers de détenus. Et quand je vois, j'arrive après une distribution pour faire une action d'évangélisation, je vois les détenus avec le livre, prêt à entendre vraiment le message de l'Évangile. Et je leur dis, vous savez, moi, un jour, j'étais comme vous, j'étais assis là sur une chaise, et quand j'entendais le prédicateur, je me disais, je pensais qu'il avait perdu la raison, il me parlait de paix, il me parlait de joie, il me parlait d'amour, d'espérance. Je me disais, mais il réalise pas ce que je vis, moi, je suis en prison, je suis au creux de la vague, il n'y a plus d'espoir, pourquoi il me parle d'amour? C'est un menteur, ce gars-là. Et je leur dis, vous savez, ce pasteur-là, il avait raison. Ouais, donner sa vie à Jésus est synonyme d'amour, de changement, d'espérance. Dieu peut transformer votre vie. Et je leur montre ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi qui suis papa, Dieu m'a recyclé. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je vais parler à des mineurs, parfois qui sont en situation d'échec. Et je leur dis, vous savez, l'échec, c'est un résultat. C'est pas parce que vous êtes en prison que vous êtes un échec, que vous êtes une erreur. Oui, vous avez fait une erreur. C'est pour ça que vous êtes en prison. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision, celle de confier votre vie à Jésus. Votre avenir n'est pas derrière ces murs.
Amen.
Vous n'avez pas été placé sur la terre pour vivre derrière ces murs. Et je vois de grandes, de belles choses se passer dans les prisons.
Amen.
Et on ne peut pas oublier les détenus. J'étais en prison, vous m'avez visité.
Oui, c'est vrai. Jésus l'a dit. Et est-ce que c'est difficile d'avoir accès aux prisons, de pouvoir prêcher l'Évangile dans les prisons où les prisons sont ouvertes et c'est facile d'accès pour toi?
C'est jamais facile d'accès, que ce soit par l'administration, que ce soit parfois par des groupes qui sont contre l'Évangile. Donc des fois, il y a des menaces à l'intérieur, des fois, il y a des fermetures à l'extérieur. Mais on peut dire aussi que les aumôniers font un travail extraordinaire, c'est les aumôniers, les ambassadeurs. Et il serait aussi bien de les soutenir dans leurs actions, ces aumôniers qui parfois n'ont pas de salaire, mais qui livrent leur vie en sacrifice pour être au service des détenus. Souvent, je vois dans certains pays où il y a un aumônier pour 700 détenus, même pas de Bible à donner aux détenus, il y a rien, quoi. Il faut aider ces gens, il faut un travail extraordinaire qui me facilite vraiment la tâche. Alors quand on va en prison, c'est pas, surtout dans certains pays, on veut pas y aller les mains vides. distribution de produits de première nécessité, distribution de livres, de littérature. Mm-hmm. On veut vraiment avoir un impact, pas simplement en mots, mais en action aussi.
Mm-hmm.
Ouais.
Et ça, justement, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent ton histoire, qui sont interpellés, comment on peut te soutenir? Comment on peut soutenir ces œuvres? Le programme Un livre, un détenu est toujours en cours? Ou est-ce qu'on passe sur ton site? Comment ça se passe?
Oui, yanisgauthier.fr. On ne promotionne plus, on ne met plus en avant ce programme, mais mmh. il est toujours en cours. Parce que malheureusement, la prison, c'est un turnover, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent.
Et, oui.
Et puis en plus, il s'est étendu, parce qu'au début, c'était pour la France, les dom-toms. Mais par exemple, on est au Canada, on aimerait bien aussi distribuer les livres. En Afrique, il y a plusieurs pays de la francophonie finalement qui demandent mm-hmm. à ce que ce projet soit mis en place. Donc on a besoin de vous.
Mm-hmm.
Et si vous voulez nous aider vraiment, que ce soit au travers du livre ou pour offrir une Bible ou pour offrir quelque chose à un détenu, à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, eh bien yanisgauthier.fr, vous avez un onglet donation, c'est possible de faire un don.
Amen, amen. Il faut le faire. Il faut soutenir des œuvres comme tu fais. Et très rapidement, pour quelqu'un peut-être qui est interpellé par ce milieu carcéral, qui sent peut-être un appel, comment ça se passe pour quelqu'un qui aimerait pouvoir visiter des détenus? Est-ce que tu fais ça en groupe des fois?
Alors moi, je n'accrédite pas les aumôniers.
Hein. Mm-hmm. Non, pas les aumôniers.
Les fédérations qui le font.
Mm-hmm.
Après, dans certains pays comme la France, par exemple, les accès en prison sont très limités pour des raisons de sécurité. Donc, on peut pas venir à 10, hein, c'est pas le Club Med, la prison. C'est quand même, on est en prison.
Bien sûr.
Donc, qui dit prison dit sécurité et puis, donc surveillance, etc. Donc, des fois, j'emmène des gens avec moi pour participer à un culte.
Mm-hmm.
Des fois, j'ai même des surveillants à venir, c'est-à-dire des gens qui sont à l'école de surveillants, qui me contactent. Parce qu'ils sont chrétiens et ils veulent vraiment comprendre un petit peu ce que vivent les prisonniers. Donc je les emmène et je les forme. Je participe à leur formation pour leur travail futur.
C'est génial,
voilà.
Yanis, merci pour ton histoire, merci pour ton cœur, ce que tu fais pour ces prisonniers qui sont, comme tu le dis, oubliés entre quatre murs. On pense pas souvent à eux. Et je veux vous encourager à la maison aussi à prier pour les détenus et à prier pour le ministère de Yanis Gauthier. Oui, vous pouvez le soutenir sur yanisgauthier.fr. Vous pouvez prier aussi pour ce ministère parce que les fruits sont là, sont évidents et il y a de grands, grands besoins. Merci infiniment, d'être venu nous raconter ton histoire dans la rubrique C'est mon histoire.
Merci Evelyne de m'avoir invité.
Avec joie. On rend grâce à Dieu pour la vie de l'évangéliste Yanis Gauthier et on rend grâce à Dieu pour votre vie parce que votre vécu, oui, est une clé pour activer la compassion et vous allez porter du fruit dans la vie des gens qui vous entourent. Et vraiment, on prie que vous soyez pleinement guéris de ce que vous avez pu vivre et que vous puissiez à votre tour apporter la guérison à ceux qui s'ouvrent, les amener au Seigneur et les aider dans leur combat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.